Merci d'être là, Rémi. L'assemblée sera tenue en anglais et en français. Une traduction simultanée dans les deux langues sera disponible. Vous pourrez poser des questions dans la langue de votre choix. The meeting will be held in French.
L'assemblée sera tenue en français et en anglais. Une traduction simultanée dans les deux langues est disponible. Vous pourrez poser les questions dans la langue de votre choix.
Dès le déroulement de l'assemblée, nous avons demandé à l'avance à des actionnaires de la société de faire et d'appuyer certaines propositions. J'aimerais vous présenter les personnes assises à mes côtés. Monsieur Nelson Gentiletti, chef de la direction financière et du développement. Monsieur François Olivier, président et chef de la direction. Et Madame Christine Desauniers, chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire. Nous compléterons d'abord la partie formelle et légale de cette assemblée et nous vous livrerons ensuite nos messages annuels. Je vous inviterai à réserver vos questions si vous en avez et commentaires pour la fin. J'agirai comme présidente de l'Assemblée et Mme Christine Desauniers agira comme secrétaire de l'Assemblée. Je demande aux représentants de Société de fiducie AST Canada d'agir comme scrutateurs de l'Assemblée. Mme Francine Beauséjour et M. Bertrand Gély, bonjour. M'ont remis un rapport qui indique que nous avons quorum. Je déclare donc l'Assemblée régulièrement convoquée et constituée. Le rapport des scrutateurs et les autres documents relatifs à cette Assemblée seront déposés au dossier de l'Assemblée. L'ordre du jour prévoit la réception des états financiers consolidés de Transcontinental pour l'exercice clos le 29 octobre 2017 et le rapport des auditeurs s'y rapportant. Un exemplaire de ces documents inclus au rapport annuel sera également déposé au dossier de l'Assemblée. Nous allons maintenant procéder à l'élection des administrateurs de la société. Permettez-moi d'abord de souligner que tous les candidats à titre d'administrateur sont déjà des administrateurs de Transcontinental. En cours d'année, nous avons nommé au conseil d'administration M. Yves Leduc, suite au départ de M. André Tremblay en septembre dernier. Yves est président et chef de la direction de Vélan Inc., une entreprise de fabrication de robinetterie industrielle. Avant de joindre Vélan, M. Leduc avait travaillé pendant plus de 16 ans chez BRP, notamment à titre de vice-président et directeur général des activités nord-américaines. Précédemment, il avait œuvré à titre de consultant chez McKinsey & Company et d'avocat chez Stikeman Elliott. Il est également engagé dans son milieu, notamment auprès de Harford Music, l'accélérateur de créateurs d'entreprises technologiques de l'Université de Sherbrooke et de la Corporation Études Sport de l'Université de Sherbrooke. Nul doute que son expérience au Canada et à l'international, en vente, en développement de produits, en marketing et du domaine manufacturier, nous est déjà bénéfique, particulièrement dans le cadre de notre transformation vers l'emballage. Bienvenue, Yves. Quant à M. Tremblay, il a été administrateur de Transcontinental pendant plus de 10 ans. Il a joué un rôle de premier plan, particulièrement à titre de président du Comité des ressources humaines et rémunérations. Nous avons pu bénéficier, tout au long de ces années, de sa vaste expérience, son esprit créatif et son sens pratique. Je le remercie chaleureusement de ses conseils judicieux. Comme vous avez pu le constater, le nombre de candidats proposés à titre d'administrateur est de 13, dont 8 sont indépendants. Je demande à M. Jean Deneau de proposer une résolution visant l'élection des administrateurs.
Madame la Présidente, je propose que les personnes suivantes soient élues administrateurs de Transcontinental jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leur successeur ait été vivant élu. Jacinthe Côté, Richard Fortin, Yves Leduc, Isabelle Marcoux, Nathalie Marcoux, Pierre Marcoux, Rémi Marcoux, Anna Martini, François Lillier, Mario Pio, Jean Raymond, François Roy et Annie Tabot.
Merci Jean. Je demande à M. Jean-Paul Gagné d'appuyer cette proposition.
Madame la Présidente, j'appuie la proposition.
Merci Jean-Paul. Y a-t-il des questions au sujet de la proposition? La proposition a été dûment faite et appuyée. Pour l'élection des administrateurs, nous avons recueilli les votes par procuration exprimés sur une base individuelle. À moins qu'il n'y ait d'autres propositions de candidature, je demande maintenant le vote à main levée. Ceux qui sont en faveur, ceux qui sont contre. Je déclare la proposition approuvée et les personnes proposées élues administrateurs de la société. Je tiens à vous les présenter. Je demanderai à chaque administrateur de se lever à l'appel de son nom. Madame Jacinthe Côté, administratrice de société. Monsieur Richard Fortin, administrateur de société. Monsieur Yves Leduc, président et chef de la direction de Vélan. Madame Nathalie Marcoux, vice-présidente aux finances de Capinabel. Monsieur Pierre Marcoux, président de TC Média. Monsieur Rémi Marcoux, fondateur et administrateur de Transcontinental. Madame Anna Martini, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière du club de hockey canadien Centre Bell et Evenco. Monsieur François-Olivier, président et chef de la direction de la société. Monsieur Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascade. Monsieur Jean Raymond, vice-président du conseil, directeur général et chef des marchés des capitaux CIBC Québec marché mondiaux CIBC Inc. Vous imprimez vos cartes d'affaires. Monsieur François Roy, administrateur de société. Madame Annie Tabet, associée de Celtis Capital. Et moi-même. Félicitations à tous nos administrateurs et administratrices. Je vous souligne que 38,5 % des membres de votre conseil sont des femmes. Nous en sommes très fiers. En effet, nous croyons fortement que la diversité homme-femme est essentielle à tout milieu de travail et que les entreprises qui font place à la diversité et l'inclusion créent de la valeur pour l'ensemble des actionnaires. Le point suivant à l'ordre du jour est la nomination des auditeurs pour l'exercice financier en cours. Le conseil d'administration recommande la nomination de KPMG comme auditeur de la société pour l'exercice financier se terminant le 28 octobre 2018. Je demande à M. Richard Fortin de proposer une résolution à cette fin. Merci, Richard. Je demande à M. Mathieu Hébert d'appuyer cette proposition. Merci, Mathieu. Y a-t-il des questions au sujet de la proposition? La proposition a été dûment faite et appuyée. Je demande maintenant le vote à main levée, ceux qui sont en faveur, ceux qui sont contre. Je déclare la proposition approuvée, KPMG étant nommé auditeur de la société pour l'exercice financier en cours et le conseil d'administration étant dûment autorisé à établir leur rémunération. C'est bon, Yvon. À cette étape-ci, j'aimerais vous livrer mon message annuel. Messieurs Olivier et Gentiletti s'adresseront ensuite à vous. Je tiens à rappeler que les propos qui seront tenus dans nos présentations peuvent contenir des éléments de nature prospective. Je vous invite à lire la mise en garde qui apparaît à l'écran. Chers invités, 2017 vient de s'achever et je peux vous confirmer que l'année a été fructueuse pour Transcontinental. Guidée par notre conseil d'administration, et menée par notre équipe de direction, nous avons pris de judicieuses décisions d'affaires. Nous avons tenu solidement la barre de notre transformation et notre rigueur nous a permis de garder le cap sur notre objectif de générer une croissance durable. Ainsi, notre virage stratégique s'est poursuivi à un rythme soutenu en 2017. Notre vision est claire et porteuse. Ancrer notre position de premier imprimeur au Canada et de leader dans nos activités de médias spécialisés, tout en faisant évoluer l'organisation afin d'être un chef de file nord-américain en emballage souple. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons mis en œuvre les initiatives requises pour réaliser notre plan. Nous avons terminé l'année en affichant une solide performance financière et un bilan sain. Ainsi, Nous sommes mieux positionnés que jamais pour accélérer notre transformation et créer de la valeur à long terme au bénéfice de toutes les parties prenantes. J'en suis très fière, d'autant plus que certaines de nos décisions marqueront un tournant dans notre histoire. Comme vous le savez, Transcontinental a toujours été géré pour la pérennité. Ainsi, les décisions importantes sont prises dans cette perspective du long terme. De plus, nous avons la volonté de laisser l'héritage d'une solide entreprise qu'on pourra qualifier de citoyenne responsable. Bien sûr, nous cherchons la croissance, mais cette croissance devra être une croissance durable. Pour y parvenir, nous savons que nous devons mettre en œuvre de façon responsable, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain et pour les générations futures. Cette conscience sociale que nous nous sommes donnée au fil des ans est l'un des principaux facteurs de différenciation de Transcontinental. Nous avons toujours et nous continuerons d'agir selon nos valeurs profondes. Vous pouvez compter sur nous pour faire preuve de leadership dans l'exploitation responsable de nos activités. J'aimerais donc aujourd'hui vous partager trois aspects clés de notre approche de responsabilité sociale d'entreprise. Premièrement, notre parcours et notre engagement. Il y a 25 ans, soit en 1993, nous avons adopté notre première politique environnementale. Cette décision confirmait alors notre engagement envers le développement plus responsable de notre entreprise. Depuis, nous n'avons cessé d'ajuster nos processus, de modifier nos façons de faire et d'agir de manière responsable tout en préservant l'objectif de la pérennité transcontinentale. Je suis fière de nos nombreux accomplissements à ce chapitre. Pensons notamment à la mise en place de notre politique en matière d'achat de papier, en 2007, élargie en 2012, qui a fait de Transcontinental un leader de l'industrie au chapitre de l'approvisionnement durable en papier. Par ailleurs, nous sommes à intégrer présentement nos activités d'emballage dans cette stratégie responsable. Déjà, nous avons identifié les grands pans de nos champs d'action et nous serons en mesure de communiquer la teneur au cours des prochains mois. Le deuxième aspect de notre approche de responsabilité sociale, l'encadrement et l'imputabilité. La structure de responsabilité sociale chez Transcontinental est encadrée par une bonne gouvernance bien définie. En premier lieu, nos priorités sont établies par un comité directeur. Ses membres, tous issus de nos créneaux d'affaires, veillent à l'atteinte de nos objectifs et mesurent notre performance. Cette façon de faire nous permet la proximité requise de nos dirigeants avec nos secteurs d'exploitation pour la meilleure prise de décision. En second lieu, le comité de direction entérine l'ensemble des plans et s'assure que les structures sont en place pour la livraison de ces plans. Par ailleurs, l'apport du conseil d'administration est significatif puisqu'en 2017, nous avons intégré la supervision de la mise en œuvre du plan de responsabilité sociale de Transcontinental au mandat du comité de régie d'entreprise présidé par M. Mario Plourde. Cette nouvelle gouvernance constitue un pas de plus pour confirmer notre engagement envers la poursuite responsable de nos activités. Le troisième aspect de notre approche, des objectifs clairs et une planification triennale. Nos engagements sont précis et mesurables et nous les rendons publics. Nous sommes présentement à finaliser le déploiement de notre troisième plan triennal 2016-2018. Ce plan, intitulé « Générer des résultats durables », met de l'avant 14 objectifs audacieux mais réalistes autour de quatre axes clés. Le premier axe, nos employés. Nous investissons en continu dans le mieux-être et le développement de tous ceux et celles qui, chaque jour, œuvrent à notre succès. Notre deuxième axe, les collectivités. Nous contribuons au bien-être des communautés où nous sommes présents et favorisons leur ressort. D'ailleurs, en 2017, Transcontinental a remis 2,4 millions de dollars à plus de 400 organismes. Nous avons notamment maintenu notre engagement indéfectible envers Centraide du Grand Montréal, une cause qui nous tient à cœur depuis plus de 30 ans. Le troisième axe clé est notre prospérité. Nous veillons à la croissance durable de notre organisation. La croissance de l'avoir des actionnaires dans un contexte de pérennité et de responsabilité sociale est primordiale. Finalement, le dernier axe, mais non le moindre, l'environnement. Nous nous assurons d'adopter de bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de nos activités. Voilà pourquoi nous affirmons que Transcontinental est un citoyen corporatif responsable, puisque, comme vous pouvez le constater, nous avons pris les moyens pour qu'il en soit ainsi. Je profite de l'occasion pour partager avec vous certaines reconnaissances qui témoignent de notre engagement. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons gravi les échelons, un à un, au sein du prestigieux classement des 50 entreprises citoyennes les plus responsables au Canada de Corporate Knights, en passant à la 22e position en 2017. De plus, nous nous sommes illustrés en maintenant notre 4e position au classement Blue Line 2017 de Canopy. Ce classement souligne les performances de développement durable des joueurs de l'industrie de l'imprimerie nord-américaine. Depuis toujours, nous savons que le présent est garant de l'avenir. En 2018, nous savons plus que jamais que nos perspectives de demain sont indissociables de nos actions d'aujourd'hui. De tels accomplissements ne sont pas le fruit du hasard et je tiens à reconnaître les efforts de tous à l'atteinte de nos objectifs. D'abord, je félicite les membres de l'équipe de direction qui, sous le leadership de François Olivier, ont permis, encore cette année, que Transcontinental rayonne tant par ses résultats financiers que par son sens de la responsabilité sociale. En travaillant sans relâche à notre transformation, toutes les équipes gardent le cap sur le rendement à long terme de Transcontinental, tout en préservant l'intérêt de nos actionnaires. J'aimerais aussi remercier chaleureusement nos employés qui font vivre au quotidien nos valeurs. Je salue également la précieuse contribution de mes collègues au conseil d'administration. Tous et toutes ont une solide expertise et ensemble, ils possèdent une vaste expérience, notamment en fusion et acquisition, en opérations manufacturières, en commerce de détail et en développement de produits. Nous sommes privilégiés de bénéficier de leurs conseils avisés qui guident nos actions dans le cadre de notre transformation. En terminant, je tiens à vous réitérer, chers actionnaires, mes remerciements les plus sincères. Merci de votre appui et de votre confiance continue. Avant de céder la parole à François, j'aimerais vous laisser sur cette nouvelle vidéo d'entreprise qui reflète bien notre transformation, nos employés et l'ensemble de nos activités. Merci.
Alors, merci Isabelle. Bon après-midi à tous. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter à mon tour la bienvenue à cette assemblée annuelle. La vidéo que vous venez de voir reflète qui nous sommes, l'énergie qui fait vibrer nos usines et nos bureaux, le dynamisme de tous nos créneaux d'affaires et surtout la passion qui anime nos équipes de talent. D'ailleurs, je remercie tous nos employés et tous nos gestionnaires. En 2017, ils ont fait leur marque au sein de notre organisation et ont œuvré sans relâche à notre succès. Grâce à eux, nos clients ont aussi fait leur marque auprès de leur clientèle cible et notre entreprise a donc fait sa marque dans l'industrie. Faire sa marque est donc devenu notre nouvelle signature d'entreprise. Aujourd'hui, je vais couvrir trois points importants. Premièrement, je reviendrai sur les faits saillants de nos résultats financiers consolidés 2017. Deuxièmement, je ferai une revue de l'exploitation de nos activités en mettant en lumière notre stratégie de transformation. Et enfin, je présenterai nos perspectives pour la prochaine année financière. En 2017, nous avons poursuivi la transformation de Transcontinental, non seulement avec rigueur et détermination, mais avec succès. Nos résultats financiers consolidés témoignent de la justesse de notre stratégie d'affaires. Enfin, la société a affiché une solide performance financière et j'aimerais attirer votre attention sur certains faits saillants. Nos revenus consolidés sont demeurés stables à 2 milliards de dollars. Le résultat opérationnel ajusté a quant à lui passé de 283 millions de dollars au cours de l'exercice 2016 à 293 millions pour la même période en 2017, soit une augmentation de 4 %. C'est très appréciable, mais si en plus on exclut l'effet défavorable de la charge de rémunération à base d'actions et l'effet favorable du taux de change, deux éléments qu'on contrôle moins, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 8 % ou 22 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? On doit en retenir que nos opérations sont très performantes. De plus, pour une troisième année consécutive, le résultat net ajusté a affiché un record historique depuis la fondation de Transcontinental. Il a franchi pour la première fois la barre des 200 millions de dollars en atteignant 202 millions de dollars, soit une augmentation de 3 % comparativement à l'année précédente. Au cours de l'exercice 2017, nous avons encore généré d'importants flux de trésorerie, soit 411 millions de dollars. Nous avons continué à diminuer notre endettement net, le faisant passer de 331 millions de dollars au début 2017 à 35 millions de dollars au premier trimestre de 2018, ce qui nous permettra d'accélérer notre transformation vers l'emballage. Les faits saillants dont je viens de vous faire mention ne sont pas anodins, puisque l'histoire a démontré que les entreprises en transformation connaissaient normalement une diminution de leurs revenus, une diminution de leur profitabilité et une augmentation de leurs dettes. Chez Transcontinental, c'est l'inverse qui se produit, et ce, depuis le début de notre transformation en 2014. En effet, au cours de cette période, nos revenus sont demeurés relativement stables, notre profitabilité a constamment augmenté, nous avons continué à générer d'importants flux de trésorerie et notre niveau d'endettement a constamment diminué. J'en suis très fier, d'autant plus que, comme vous le savez, nous l'avons fait en retournant de la valeur aux actionnaires. Nous avons versé au cours de cette période de 4 ans des dividendes à la hauteur de 218 millions de dollars et nous avons racheté des actions pour 22 millions de dollars. Regardons maintenant 7. First, the printing division.
D'abord, la division de l'impression. Cette division a connu une autre excellente année et demeure le chef de file en impression en Canada. Elle a généré en 2017 74 % de nos revenus consolidés, soit 1,5 milliard de dollars. Vous le savez, plusieurs créneaux de l'industrie de l'impression sont en décroissance. Malgré cette réalité chez Transcontinental, nous avons continué à améliorer notre profitabilité et cela pour une huitième année consécutive. Depuis 2009, le résultat opérationnel ajusté a augmenté à un taux de croissance annuelle composée de 6 %. Ces résultats démontrent que nous avons réussi à sélectionner les créneaux performants et à nous tailler une place de choix. Par exemple, prenons les services offerts aux détaillants qui représentent à eux seuls près de 60 % de nos revenus d'impression. D'ailleurs, la demande pour ces services a augmenté en 2017. Clairement, notre modèle crée de la valeur pour les détaillants, mais aussi pour nous tous. Je profite de l'occasion pour vous annoncer que nous avons renouvelé, après la fin de l'année financière, une entente à long terme avec la compagnie Loblaw Limitée pour l'ensemble de ses bannières au pays. Non seulement cette entente inclut-elle la gamme complète de nos services aux détaillants, mais elle comprend aussi du volume additionnel d'impression commerciale, du volume additionnel d'impression de produits marketing sur le lieu de vente et de nouveaux services de prix média. Nos solides résultats de la division de l'impression en 2017 démontrent aussi l'efficacité de nos activités d'exploitation. Comment y arrivons-nous? Eh bien, nous maximisons l'utilisation de notre plateforme d'impression en optimisant notre capacité dans chacune de nos usines en fonction des volumes d'activités canadiens. En somme, dans notre division de l'impression, nous avons fait les bons choix et nous performons.
De la division de l'emballage, qui, comme vous le savez, est notre axe de croissance. Cette division a connu de belles avancées au cours de la dernière année. Elle représentait en 2017 15 % de nos revenus consolidés, soit 308 millions de dollars. Je vous rappelle que c'est dans cette division, notre stratégie est de générer une croissance interne des ventes et de faire de nouvelles acquisitions. Et c'est exactement ce que nous avons fait en 2017. Soulignons que la division de l'emballage a généré une croissance interne soutenue de 6 % et j'en suis très satisfait. Ce résultat est le fruit de plusieurs initiatives que nous avons déployées au cours de l'année financière 2016 et des premiers trimestres de 2017. Pensons à nos investissements réalisés pour accroître notre capacité de production et pensons aussi aux ressources déployées pour développer notre force de vente. Au chapitre des acquisitions, nous aurions voulu en faire plus en 2017. Mais pour nous, l'important est de faire les bonnes acquisitions, soit des acquisitions qui pourront s'intégrer stratégiquement et naturellement à notre plateforme. D'ailleurs, à la fin de notre exercice financier, le 31 octobre 2017, nous avons acquis les industries Flexipac ici à Montréal, et j'en profite pour saluer M. Charles et Carl Boustany, qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous réaffirmer notre détermination à poursuivre des occasions d'acquisition porteuse et sachez que nous sommes très actifs à ce chapitre. Enfin, tournons notre attention vers les activités de TC Media. Celles-ci ont généré en 2017 11 % de nos revenus consolidés. Toutefois, ce fut une année pivot au cours de laquelle nous avons continué de transformer notre portefeuille d'actifs pour nous recentrer sur nos créneaux porteurs. Pour y arriver, des choix d'affaires difficiles s'imposaient. Nous nous sommes départis de nos actifs médias dans les provinces de l'Atlantique et nous avons amorcé un processus pour vendre nos 93 journaux locaux et régionaux au Québec et en Ontario. Ce rigoureux processus a généré beaucoup d'intérêt dans le marché et il se complétera incessamment. Pour l'avenir, nous concentrons nos efforts sur le groupe Affaires et Éducation, soit des marques spécialisées pour le milieu des affaires, de la finance, de la construction, de même que nos activités d'édition d'ouvrages pédagogiques de langue française. Ce groupe a généré 99 millions de dollars de revenus en 2017. Il est bien avancé dans sa transformation, avec une offre de produits et de services qui dépend moins de la publicité, et il a connu une excellente performance encore cette année. Fort de nos succès, nous continuerons en 2018 de procéder de façon systématique et rigoureuse à notre transformation. Au moment de notre entrée dans l'industrie de l'emballage souple en 2014, notre portefeuille se déclinait principalement en deux créneaux d'affaires, l'impression et les médias. L'emballage souple générait seulement 2 % de nos revenus consolidés. Quelques années plus tard, le portrait est bien différent. J'attire votre attention sur le graphique des revenus pro forma des 12 derniers mois 2018. La division de l'impression génère maintenant 79 % de nos revenus consolidés, alors que le secteur des médias constitue une proportion moindre, soit 5 %. La division de l'emballage occupe aujourd'hui une part grandissante de nos revenus consolidés, soit 16 %. Au fur et à mesure que nous réalisons de nouvelles acquisitions en emballage souple, nous prévoyons que trois importants croisements vont se produire au cours des années à venir. Le premier, le nombre d'usines d'emballage souple surpassera le nombre d'usines d'impression. Le deuxième croisement sera au chapitre des ventes, au moment où les revenus d'emballage deviendront plus importants que ceux de l'impression. Et le dernier croisement, ce sera celui de la profitabilité, quand nos activités d'emballage généreront une plus grande profitabilité que nos activités d'impression. Bien sûr, il est difficile d'anticiper à quel moment ces croisements se produiront, mais notre stratégie est claire et nous déployons toutes les ressources pour l'exécuter avec efficience. Vous pouvez compter sur nous pour garder le cap sur cette stratégie. En 2018, nous allons accélérer notre vitesse de croisière. Voici les grandes lignes de nos perspectives pour la prochaine année. Au chapitre de la division de l'impression, nous prévoyons une stabilité des revenus provenant de notre offre de services aux détaillants et une décroissance des ventes dans nos autres créneaux. Nous allons gérer de façon rigoureuse nos contrats à long terme, travailler à accroître nos parts de marché dans tous nos créneaux, notamment pour les produits marketing sur lieu de vente, et nous continuerons à optimiser notre plateforme d'impression. Du côté de nos activités d'emballage, nous poursuivons le développement des affaires et nous anticipons d'ailleurs une croissance interne des ventes similaire à celle de 2017. Nous continuerons aussi évidemment à développer notre réseau nord-américain par l'entremise de nouvelles acquisitions. Pour notre secteur des médias, nous compléterons notre processus de vente des journaux locaux et régionaux. Et puis, sous le leadership de Pierre Marcoux, récemment nommé président de TC Média, nous développerons nos créneaux porteurs de trois façons. En enrichissant notre offre de produits et services, en accroissant nos parts de marché et en évaluant les occasions d'acquisition ciblées dans nos deux créneaux d'affaires. Nous jouissons d'une solide situation financière et amorçons 2018 avec assurance. À la lumière de nos résultats, nous pouvons continuer notre stratégie gagnante. Conséquemment, nous sommes en meilleure position que jamais pour non seulement poursuivre, mais accélérer notre transformation où l'emballage souple prendra davantage d'importance. Comme Isabelle le mentionnait, le succès ne vient pas seul. J'aimerais prendre le temps aussi, à mon tour, de remercier tous ceux et celles qui ont fait la différence chez Transcontinental. Encore une fois, je me dois de partager nos succès avec tous nos employés qui œuvrent sans relâche à l'atteinte de nos objectifs. J'en profite également pour saluer le travail exceptionnel des membres de notre comité de direction et de nos dirigeants, dont plusieurs sont ici aujourd'hui. Je suis fier de pouvoir compter sur votre dévouement et votre détermination pour faire une réussite de la transformation de notre organisation. Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude aux membres de notre conseil d'administration. Nous savons que vous êtes là pour nous guider et nous épauler à tous les instants. De plus, je tiens à remercier chaleureusement tous nos clients de leur confiance renouvelée encore cette année. Enfin, chers actionnaires, je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. Merci beaucoup de votre attention et je cède maintenant la parole à Nelson Gentiletti.
Merci François et bon après-midi à tous. Comme François l'a mentionné dans son allocution, c'est tard l'après-midi, nous commençons l'année 2018 avec une vision claire de notre stratégie de croissance une talentueuse équipe entièrement dévouée et une situation financière solide. Ceci se traduit dans nos résultats du premier trimestre, alors que nous poursuivons notre transformation. Avant de vous brosser un aperçu des résultats de notre premier trimestre diffusé plus tôt aujourd'hui, permettez-moi de prendre quelques minutes pour passer en revue les effets de la nouvelle entente conclue avec Hearst sur nos états financiers, alors que cela a généré un peu de bruit dans nos résultats.
En décembre dernier, nous avons annoncé que notre entente d'impression avec Hearst prendra fin le 1er avril et que nous prévoyons transférer à Hearst l'impression du San Francisco Chronicle, présentement réalisée à notre usine de Fremont en Californie. Nous continuerons d'imprimer le journal à Fremont jusqu'au 1er avril 2018 et fournirons des services de transition jusqu'au 31 octobre 2018. Avec cette nouvelle entente, nous recevrons un paiement en espèces de 42,8 millions de dollars américains, dont 32,3 millions nous ont été payés au premier trimestre et le solde sera payé au cours du deuxième trimestre. La répartition du paiement en espèces est la suivante. 25 millions américains à titre de compensation pour la résiliation anticipée de l'accord modifié de 2013, 7,3 millions américains pour les services à fournir dans le cadre d'un contrat de service transitoire, 10,5 millions américains pour la vente de certains de nos équipements d'impression. De plus, nous avons également convenu de louer notre usine à Hearst jusqu'à la fin de l'année 2024. Nous recevrons 21,3 millions de dollars américains sur la durée de ce bail. Cette entente entraîne un gain non monétaire unique au chapitre du BAIIA, puisque nous allons accélérer la reconnaissance d'environ 80 millions de dollars américains de revenus reportés au premier et au deuxième trimestre de cette année. Cela représente le revenu différé non amorti provenant du paiement unique en espèces de 200 millions de dollars américains que nous avons reçu en 2013 de Hearst à titre d'indemnisation pour modifier le contrat initial. De plus, nous enregistrerons un amortissement accéléré de nos actifs d'environ 15 millions de dollars américains. L'incidence monétaire de cette nouvelle entente sur notre BAIIA ne sera pas significative. Au cours du trimestre, la reconnaissance accélérée des revenus différés en lien avec cette entente a représenté 40 millions de dollars canadiens et l'amortissement accéléré a eu une incidence de 6 millions de dollars sur notre résultat opérationnel. Enfin, nos résultats du premier trimestre ont également été touchés par la réforme fiscale américaine entrée en vigueur le 1er janvier. La baisse du taux d'impôt statutaire fédéral a réduit de près de 37 millions de dollars au cours du trimestre la valeur de nos actifs d'impôt différé reconnus précédemment. Globalement, nos revenus au premier trimestre ont diminué, passant de 504 à 502 millions de dollars. En excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés en lien avec la nouvelle entente avec Hearst, les revenus ajustés ont diminué de 42 millions de dollars. Les principales raisons liées à cette diminution sont les suivantes. Premièrement, un manque à gagner de 29 millions de dollars lié à la vente de journaux locaux et régionaux et d'autres actifs médias. Deuxièmement, nous sommes touchés par une décroissance interne des revenus de 12 millions de dollars en lien avec la réduction du volume d'impression dans les créneaux qui ne sont pas reliés à nos services aux détaillants, en raison du décalage d'achat de clients à l'une de nos usines d'emballage et, dans le secteur des médias, des revenus inférieurs générés par nos activités d'édition de journaux locaux et régionaux qui demeurent. Cela a été partiellement contrebalancé par une hausse de la demande pour nos services aux détaillants, notamment en raison de la contribution additionnelle de l'entente élargie avec Lowe's Canada. Finalement, le taux de change a eu un effet défavorable de 5 millions de dollars au cours du trimestre. De plus, des revenus additionnels générés par notre acquisition en octobre dernier des industries Flexipac et de celles réalisées en décembre 2016 de marques spécialisées en finance de Rogers Media ont également contribué à atténuer l'effet de la baisse des revenus. En ce qui concerne la profitabilité, Le résultat opérationnel a totalisé 124 millions au premier trimestre de 2018, ce qui représente une augmentation de 62 millions de dollars ou de 97,9%. En excluant l'effet favorable de la reconnaissance accélérée des revenus reportés et l'effet de l'amortissement accéléré en lien avec l'entente avec Hearst, les frais de restructuration et autres coûts ou gains et la dépréciation d'actifs, le résultat opérationnel ajusté a connu une augmentation de 5 millions de 7,8%, passant de 66 millions de dollars. De plus, en excluant la diminution de 7 millions de dollars de la charge de rémunération à base d'action en raison de la baisse de 6% du cours de l'action au premier trimestre 2018 par rapport à la même période l'an dernier, et l'effet défavorable de la vente des journaux locaux et régionaux et d'autres actifs médias en 2017, le résultat opérationnel ajusté est demeuré stable. La contribution des acquisitions et l'effet favorable des initiatives de réduction des coûts dans la division d'impression et dans les activités d'édition de journaux locaux et régionaux dans le secteur des médias ont contrebalancé la baisse de volume mentionnée précédemment. Le résultat net a augmenté de 36,3% ou de 15 millions pour s'établir à 58 millions de dollars. Cette augmentation est surtout attribuable à la hausse du résultat opérationnel, partiellement contrebalancée par des impôts sur le résultat plus élevés. Le résultat net ajusté a augmenté de 8 millions ou 17,7%, atteignant 49 millions de dollars. Il est passé de 53 à 63 cents par action. Cette augmentation est partiellement attribuable à la diminution de 7 millions de dollars de notre charge de rémunération à base d'action en raison de la variation du cours de l'action au premier trimestre de 2018 comparativement à la même période l'an dernier.
Continental a continué de générer d'importants flux de trésorerie. Le flux de trésorerie généré par nos activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts payés sur le résultat, a augmenté de 41 millions de dollars, passant de 93 millions l'an dernier à 134 millions de dollars, alors que nous avons reçu 32 millions de dollars de Hearst. De plus, nous avons obtenu 30 millions de dollars de la vente de nos journaux locaux et régionaux, ainsi que de la vente de notre participation dans Cedrom SNI. Nous avons eu un écart négatif de 31 millions de dollars par rapport à notre fonds de roulement, principalement en raison d'un décalage des créditeurs et de la rémunération à base d'actions à payer. En ce qui concerne l'utilisation du flux de trésorerie, nous avons payé 12 millions de dollars en impôts. Nous avons investi 11 millions de dollars pour les acquisitions et nous avons alloué 13 millions de dollars en dépenses en immobilisation. Nous avons également alloué 7 millions de dollars au rachat d'actions au cours de ce trimestre. Dans le cadre de notre programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités, la société a racheté près de 280 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 24,59 $. Finalement, au premier trimestre, nous avons versé 16 millions de dollars en dividendes. La société s'est toujours engagée à assurer la croissance durable du dividende. Aussi, nous avons annoncé aujourd'hui une augmentation de 5 %, ce qui donne un dividende annuel de 84 $ par action. Au prix de clôture d'hier, ceci représente un rendement de 3,5 %. Depuis 1993, le dividende a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 11 %. Au chapitre de notre situation financière, au cours de ce trimestre, nous avons prolongé l'échéance de notre facilité de crédit de 400 millions de dollars pour une année supplémentaire, soit jusqu'en 2023. I'm going to be long gone. À la fin du trimestre, notre ratio d'endettement net s'établissait à 0,1. Notre solide situation financière nous permettra de poursuivre notre transformation et la croissance de notre division de l'emballage. En conclusion, dans le cadre d'une transformation en profondeur de TC Transcontinental, nous avons entamé l'année avec des bons résultats. Nous avons continué de mettre en œuvre notre stratégie en mettant l'accent sur notre capacité à générer d'importants flux de trésorerie, ainsi que sur la croissance de nos activités d'emballage souple. Nous avons confiance que nous mènerons avec succès notre transformation, car nous ne perdons pas de vue nos objectifs à long terme et pouvons compter sur une équipe chevronnée et une solide situation financière. Nous vous remercions, chers actionnaires, de votre confiance et de votre appui. Merci de votre attention. Je cède la parole maintenant à Isabelle.
Point 1 de dette. On peut dire qu'on n'a plus de dette.
Ouais.
Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Cette période de questions est réservée aux actionnaires. Nous tiendrons un point de presse après l'Assemblée pour les médias. Je ne vois pas de questions. Avant de laver l'Assemblée, j'aimerais rendre hommage à notre fondateur, Rémi Marcoux, qui a rejoint les rangs du Cercle des grands entrepreneurs organisé par la CDPQ en février dernier. Je demanderai à Rémi de se lever pour que nous puissions l'applaudir pour cette reconnaissance bien méritée. Bravo, Rémi. Je demande à M. Jacques Grégoire de proposer une résolution afin de lever l'Assemblée. Merci, M. Grégoire. Je demanderai à M. Donald Le Cavalier d'appuyer cette proposition. Merci, Donald. Je déclare l'Assemblée régulièrement levée. Merci. Bon après-midi.